Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
François d'Anglette nous écrit « Je vous propose le thème suivant, l'expédition polaire de Shackleton en 1915, car je pense que c'est dans le récit d'aventure que Franck Ferrand excelle le plus. On a pu le vérifier avec les récits de la Croisière jaune, Marco Polo, le radeau de la Méduse, les révoltés de la Bounty, l'évasion de Casanova. Eh bien, vous allez être content, François. Aujourd'hui, Franck nous parle de l'expédition de Shackleton. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Le pôle est à la mode en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de ce navire de l'expédition Franklin qui a été retrouvé 168 ans après son naufrage. Alors, il y a, c'est vrai, dans cette aventure polaire, tous les ingrédients d'une belle émission. Si je comprends bien, à moi maintenant, à nous de faire monter cette mayonnaise. Pour m'y aider, j'ai convié Marc Menant à nous rejoindre. Aucun grand défi ne lui est étranger.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laïla via Facebook, qui voudrait connaître les origines de l'expression à brûle-pourpoint.
Ben voilà une question amusante. Pour le moment, avec un peu d'avance en cette mi-septembre, je vous propose de revêtir une bonne doudoune et de faire un petit saut de 100 ans en arrière. Nous partons à la conquête du pôle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
De tous les endroits du globe, l'Antarctique aura été le dernier à conserver ses mystères. On ne l'a découvert que fort tard, on ne l'a exploré que récemment. Au XVIIIe siècle, dans les années 1772-1775, l'anglais James Cook fait tout le tour de ce continent de glace. C'est le français Jules Dumont d'Urville qui, le premier, y pose un pied en 1840. Et il faudra attendre encore trois quarts de siècle pour que le norvégien Roald Amundsen atteigne le pôle sud le 14 décembre 1911. Et vous vous souvenez sans doute que quelques jours seulement après lui, il n'y a rien de plus terrible pour un explorateur. Robert Scott va parvenir à son tour au pôle sud le 16 janvier 1912. Or, Scott mourra avec ses compagnons sur le chemin du retour. Ce qui veut dire qu'au début du XXe siècle, cette conquête du pôle sud reste le fantasme de nombreux aventuriers. Paul-Émile Victor l'écrira « Rien dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire des hommes, jamais ne se pourra comparer avec ce que l'homme a réalisé, avec ce que les hommes ont enduré pour la conquête des pôles, une merveilleuse adaptation de l'être humain aux conditions les plus inhumaines qui soient. L'exploration est ici seconde, qui aboutira plus tard à la domestication de l'une des zones géographiques les plus inhospitalières de la planète. » Fin de citation. Et Paul-Émile Victor ajoute « Deux personnages restent, selon moi, à jamais inoubliables, Fridtjof Nansen pour l'Arctique et Ernest Shackleton pour l'Antarctique. Parce que l'un et l'autre, malgré les différences qui les séparent, sont toujours restés d'abord des hommes qui plaçaient au second rang leur ambition d'être les premiers dans ces fameuses courses qui tant fascinaient leurs contemporains. Ni l'un ni l'autre n'atteignirent jamais le but ultime, le pôle. Pourtant, ils furent et demeurent à mes yeux les plus grands. Shackleton, parce qu'au cours de ses quatre expéditions, toutes plus ou moins couronnées par l'échec, il ne perdit aucune vie humaine et paya pour cela de sa personne au-delà des limites concevables. Aucun chef d'expédition à ma connaissance, dit Paul-Émile Victor, si j'en crois les journaux de route, comptes rendus, livres, correspondances qu'il m'est arrivé de dépouiller, aucun chef d'expédition n'a fait à ce point l'unanimité parmi ses compagnons de route qui tous parlent avec autant d'admiration que de nostalgie de leur boss, cet homme qui toujours refusa de s'avouer vaincu, même au fond de la pire adversité. De telles figures sont plus rares qu'on ne croit, dit Paul-Émile Victor, qui savait quand même ce dont il parlait. Elles révèlent presque toujours des âmes de haute volée. Sans doute Shackleton ne possédait-il pas que des qualités. Il y avait en lui un goût certain pour l'excès, un côté un peu dingue qui en font tout le contraire d'un sage. On l'a dit quelque peu porté à l'avantardise, à la témérité inconsidérée, quelque peu coureur de jupons aussi. Paul Tréguet, qui a écrit « Trois marins pour un pôle » précise, je le cite, « Pour atteindre le pôle sud au début du XXe siècle, il fallait être marin. Ernest Shackleton fut sans nul doute parmi les plus valeureux d'entre eux. Si le 9 janvier 1909, il échoua à 180 km du but, nous nous souvenons tous de l'extraordinaire odyssée de l'Endurance et de son équipage dans une tentative transantarctique mer de Weddell, mer de Ross, en pleine Première Guerre mondiale. Alors, laissez-moi vous le présenter, cet Ernest Shackleton. Il est né en Irlande, en février 1874. Il est né dans une grande famille, hein. On est en Irlande, faut pas l'oublier. Une famille de 10 enfants, avec un père médecin. Ils vont bientôt s'en aller en Angleterre. Il arrive à Londres, il a 10 ans. Et à 17 ans déjà, il s'engage dans la marine marchande. Plus tard, Shackleton va tenter à deux reprises d'atteindre le pôle sud. La première fois avec Robert Falcon Scott, de 1901 à 1904, il est troisième lieutenant à bord du Discovery, il est atteint de scorbut, à ce moment-là il va devoir être rapatrié, etc. D'ailleurs il s'entend pas bien, mais quand je dis pas bien du tout avec Scott. Il devient à ce moment-là journaliste, secrétaire de la Royal Scottish Geographical Society, il se met à faire des affaires, il entre en politique, etc. Mais il reste obsédé par l'Antarctique. Il décide de repartir après une rencontre avec un jeune officier de la Navy, et cette fois, c'est lui qui va diriger sa propre expédition de 1907 à 1909. Un prêt de 20 000 livres va être nécessaire pour mettre sur pied ce qui doit être un exploit. Il recrute son équipe scientifique en Australie et sélectionne 15 hommes d'équipage. Le navire s'appelle le Nimrod. Mais voilà qu'il prend l'eau une heure après son départ, ce Nimrod. Shackleton va réussir néanmoins à atteindre le pôle magnétique. Mais il devra rebrousser chemin à moins de 180 km du véritable pôle. C'est tout de même un record. L'explorateur fait la une des journaux. C'est un héros de son temps. Il sera même anobli par le roi Édouard VII. Le pôle lui a donc échappé de peu, de bien peu. Un autre va se l'approprier, je vous le disais tout à l'heure. Le 14 décembre 1911, c'est le Norvégien Roald Amundsen qui réussit là où avait échoué le Britannique. Qu'à cela ne tienne, Shackleton se fixe un nouvel objectif. Cette fois, il se dit qu'il va traverser le continent antarctique, soit 2400 km à parcourir à pied ou en traîneau, avec pour point de départ la baie de Wazel. Et pour l'atteindre, évidemment, il va falloir naviguer sur les eaux inexplorées de la célèbre mer de Weddell. Ça va être l'objectif de cette fameuse expédition de 1914-1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. Cette expédition, vous allez le voir, sera une véritable odyssée de survie, une des plus grandes aventures de tous les temps, n'ayons pas peur des mots. Or, tout cela sera photographié et même filmé. Il y a un photographe à bord, c'est un Australien, il s'appelle Frank Hurley. Pour obtenir la bonne image, il a énormément de matériel, mais il va lui falloir prendre de gros risques. Notamment, on le voit au tout début de l'expédition, s'installer en équilibre sur les mâts du navire. Il rejoint l'équipe à Buenos Aires. Il va devenir le premier photographe de l'extrême. On a sauvé de son incroyable reportage quelques 150 photos et plusieurs films, des films animés, parmi les tout premiers films d'aventure qui aient jamais existé.
De la bande originale du film Antarctica par Vangelis. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'expédition polaire de Shackleton.
Avant d'aller plus loin, si vous le voulez, demandons-nous à quoi ressemble ce fameux continent antarctique. C'est une immense, c'est une gigantesque, une interminable banquise où il fait un froid perpétuel avec une température moyenne de moins 25 degrés tout de même, je parle en Celsius, mais qui peut descendre évidemment parce qu'il y a des vents terribles, des vents de 180-200 km/h. Donc vous imaginez à quels abîmes peut descendre la température. Tout ça est très hostile, très austère. D'ailleurs, il n'y a pas de vie. Les animaux, que ce soit les phoques ou les manchots, vivent sur les 25 km de glace qui sont sur la côte. Et puis après, il n'y a plus rien. Après, c'est l'enfer blanc. On accède à cet enfer blanc par une île lointaine qui est constituée de roches et de glace, qu'on appelle la Géorgie du Sud. C'est là que travaillent un certain nombre d'hommes d'une station baleinière. C'est, si vous voulez, le dernier à l'époque, en tout cas, c'est l'ultime avant-poste de la civilisation. un enfer donc, mais un enfer splendide, d'une majesté à couper le souffle, un lieu d'une beauté jusque-là insoupçonnée. Pour Shackleton, ce royaume de glace sous le globe, si l'on peut dire, est devenu une obsession après la réussite d'Amundsen. « Je me sentais étrangement attiré par le sud mystérieux », écrit-il. « Je m'étais juré que je me rendrais un jour dans cette région de glace et de neige et que je marcherais jusqu'à atteindre l'un des pôles de la Terre, extrémité de l'axe sur lequel tourne cette grande boule ronde, qui d'ailleurs est loin d'être ronde, entre nous soit dit. » Le 1er janvier 1914, Shackleton reçoit la promesse d'une avance financière suffisante pour lancer les préparatifs de sa grande expédition de traversée. Vous avez bien compris qu'il n'a pas pu aller lui-même jusqu'au pôle, il a été devancé par Amundsen, mais il veut traverser donc l'Antarctique. L'expédition sera officiellement baptisée Imperial Transantarctic Expedition. Seulement, les États d'Europe à l'époque sont en train de préparer la guerre. Et son avance, finalement, va être dénoncée 3 mois plus tard. Alors, pour compenser le manque à gagner, il va lui falloir recourir à une souscription. Pour assurer la traversée du pôle, Shackleton aura 2 navires. Sur l'Aurora, il y aura une équipe de 6 hommes qui va aller sur la côte de la mer de Ross. Et ces hommes-là devront installer des dépôts de vivres sur la route de l'autre navire et faire en même temps des observations géologiques, etc. L'autre navire, c'est l'Endurance, qui emportera une équipe de 14 hommes, dont 6 feront le voyage transcontinental. Évidemment, vous comprenez que Shackleton est sur le 2e navire, il est sur l'Endurance. Ce nom, d'ailleurs, n'est pas le fruit du hasard. Il provient de la devise familiale de Shackleton, « Par l'Endurance, nous vaincrons ». C'est un trois-mâts assisté par des machines à triple détente, dit Shackleton, ce qui lui donne une vitesse de 9 à 10 nœuds. Pour rester longtemps en mer, il devra faire le plein d'huile et de charbon. Il est bâti en bois de sapin choisi, de chêne et de green earth et jauge 350 tonnes. Ce beau vaisseau et son équipement ont coûté 14 000 livres, ce qui à l'époque est une très grosse somme. Un navire en bois, donc un des plus robustes de l'époque, avec une proue de plus d'un mètre d'épaisseur. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette précision. Shackleton doit maintenant recruter ceux qui vont partir avec lui. Alors, il fait paraître des annonces. Il se garde d'en dire trop dans les annonces en question. Je vous en lis une. Recherche homme pour voyage hasardeux. Maigre salaire. Long mois d'obscurité totale. Retour incertain. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. Voilà ce que j'appellerais une annonce à l'anglaise ou à l'irlandaise. C'est quand même pas la méthode habituelle pour recruter. Eh bien, néanmoins, et peut-être grâce à ça, il va recevoir un flot de lettres, plus de 5000. Il va, parmi ces 5000 candidats, choisir lui-même son équipage. Il choisit dans un premier temps 56 hommes, marins, chirurgiens, scientifiques, médecins, etc. Et parmi eux, son ami Frank Wild, le capitaine. Ce sera Frank Worsley. Il y aura aussi des chiens sur le bateau, bien entendu, une 60aine de chiens qui, une fois à terre, enfin si on peut dire, à glace, devront tirer les traîneaux. Ils sont anxieux en mer, ils exigent une attention constante, ces animaux-là. Et pour aider Shackleton dans ses préparatifs, il va quand même aller rencontrer Amundsen, le vainqueur du pôle. Il a eu 2 longues conférences avec lui et Amundsen va lui donner toutes sortes de petits conseils, bien entendu. Fin juillet 14, l'Endurance quitte Londres. Le 1er août, le navire mouille à Southend. Seulement là, c'est le début de la guerre. Je vous ai dit 1er août 1914. Shackleton prend connaissance de l'ordre de mobilisation générale. Alors, il envoie un télégramme à l'amirauté pour offrir le bateau, les provisions, l'équipage, etc. C'est comme ça qu'on fait dans ces cas-là. Réponse de l'amirauté, continuez. Et puis, 2 heures plus tard, il y a un télégramme qui est signé de Winston Churchill en personne, qui est premier lord de l'amirauté à l'époque, c'est-à-dire notre ministre de la Marine, si vous voulez. Et le télégramme va dans le même sens, ce qui fait que l'Endurance met les voiles sur Plymouth. On est là le 8 août 1914, le Royaume-Uni plonge dans la guerre, mais l'Endurance prend de son côté le large pour son grand voyage, 2500 kilomètres de navigation jusqu'à l'Antarctique. Alors, l'Endurance va mettre un certain temps, évidemment, pour regagner l'hémisphère sud, où il arrive à l'automne, où elle arrive, devrais-je dire, à tout point de vue. Vous savez que les Anglais disent « she », hein, « elle » pour parler des navires, et là, en plus, ça s'appelle l'Endurance. L'Endurance fait escale à Buenos Aires, elle repartira le 26 octobre. Entre-temps, un homme est venu grossir l'équipage, un jeune Gallois de 19 ans qui a été découvert caché dans la cale, figurez-vous. Alors Shackleton l'a convoqué, bien entendu, dans son bureau. Il lui explique que dans les situations extrêmes, c'est toujours le clandestin qui est mangé le premier. Et le garçon répond « Ils auraient beaucoup plus de viande avec vous, monsieur ». Derniers approvisionnements en novembre 1914, l'équipage est impatient. « J'avais décidé de quitter la Géorgie du Sud vers le 5 décembre », écrira Shackleton. « Pendant les trois derniers préparatifs, je révisais l'itinéraire de la route qui devait nous conduire au lieu d'hivernage. La glace était descendue très au nord cette saison-là. Les capitaines baleiniers avaient vu souvent les glaces arriver jusqu'aux îles pendant l'été et ils prévoyaient que l'expédition devrait traverser de grands packs. » Les packs, c'est-à-dire des étendues de glace fondantes, soudées plus ou moins fermement. Comme prévu, le départ de l'île de la Géorgie du Sud a lieu le 5 décembre 1914 à 9h moins le quart du matin. Le cliquetis du cabestan, on remonte l'ancre, le cliquetis du cabestan fut pour nous le dernier écho du monde civilisé, dit Shackleton. C'est donc parti pour 6 semaines de navigation à travers les glaces. Shackleton a voulu partir malgré les avertissements des baleiniers. Ils l'ont prévenu, pourtant jamais de mémoire d'homme on avait vu autant de glace. Ça n'impressionne pas l'explorateur, après tout, là-haut, très loin, tout au nord, des milliers d'hommes ne sont-ils pas en train d'exposer leur vie dans un conflit de masse.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'expédition polaire de Shackleton.
Comme prévu, sitôt parti ou presque, l'Endurance doit slalomer, zigzaguer au milieu des pans de banquise. Les glaces dérivantes apparaissent dès le 7 décembre, c'est-à-dire 2 jours seulement après le départ. Il faut imaginer des icebergs, certains énormes, qui créent un véritable labyrinthe de plus en plus dense. Et il faut avancer au milieu de tout ça, ça ralentit le bateau, évidemment. Toute la journée, nous avons utilisé le bateau comme bélier, écrira le photographe. Nous admirons la robustesse de notre petit navire qui semble prendre plaisir à fendre les banquises. Oui, attendez, pour l'instant ça va encore. Le 25 décembre, donc Noël n'est pas oublié, on a fait des décorations sur le bateau, on ouvre les cadeaux apportés du continent européen. Début janvier, le navire n'a toujours parcouru que quelques kilomètres vers le sud. Il avance au milieu des blocs de glace, il continue de contourner les icebergs. Le 14 février, pour permettre au navire de se frayer un chemin plus rapidement, Shackleton demande à ses hommes de descendre sur la banquise et de s'en prendre carrément à la glace. Et on les voit avec des pioches qui aident les traves, qui ouvrent en quelque sorte le passage. Nous travaillâmes toute la journée et presque tout le jour suivant. Il s'agissait de faire au bateau un chemin jusqu'à la fissure, dit Shackleton, qui effectivement, depuis le château du navire, aperçoit lui le bout de cette langue de glace. La nuit polaire va s'installer le 1er mai. Nous disions adieu au soleil, écrit Shackleton. La période du crépuscule commençait, précédant l'obscurité, mais la gaieté habituelle n'abandonna pas l'équipage de l'Endurance. On sent son impuissance néanmoins devant ce long hiver. Et pendant 6 semaines encore, dans la nuit maintenant, vous l'avez compris, l'Endurance va affronter les glaces, les briser autant qu'elle peut avec cette espèce de coque très résistante, les esquiver le plus souvent, se frayer un passage en somme. Shackleton écrit « L'Endurance méritait toutes les louanges. Jamais bateau ne fit plus dur ni meilleur travail. » Pas d'inquiétude chez les hommes, ils ont confiance en Shackleton. Sur le bateau, tout se passe bien. Voilà ce que dit le capitaine. Le chef de l'expédition. J'étais très satisfait des chiens, grands animaux hardis, choisis pour l'endurance et l'effort, c'est le cas de le dire. Bien installés dans le bateau, ils étaient dans d'excellentes conditions. Les hommes chargés des chiens s'acquittaient de leurs tâches avec enthousiasme. On pouvait donc espérer qu'ils les auraient bien en main et que le moment venu, la meute serait apte à fournir du bon travail. Viens quand même. Néanmoins, il fallait s'y attendre, le moment où l'endurance ne peut presque plus avancer. Shackleton, à ce moment-là, va prendre la décision de couper les moteurs pour économiser du carburant. Il ne le sait pas encore, mais ça c'est une très mauvaise décision. On pourrait même parler d'un geste fatal. Rapidement, la température basse va figer l'endurance dans la mer de glace. Le charpentier du navire, qui s'appelle McNish, écrit « Nous avons tenté de couper... » Parce qu'il y a un journal de bord, c'est extraordinaire avec le point de vue de chacun. « Nous avons tenté de couper la glace, mais ce fut peine perdue. Je ne donne guère de chance de nous en sortir. » Et le médecin du navire, qui s'appelle McLean, écrit « Shackleton fit preuve d'une grande force de caractère. Il ne manifesta aucun signe de découragement. Il nous dit simplement et calmement que nous allions passer l'hiver sur la banquise. » L'idée de Shackleton, vous l'avez bien compris, c'est de faire le dos rond et de reprendre la route au printemps une fois que la glace sera disloquée. Alors évidemment, cette hibernation imprévue est un énorme défi. Il faut à bord une discipline vraiment militaire. Hein. Tout est réglé. Les marins se lèvent, mangent à heure fixe, comme si on était en pleine navigation. Ils entretiennent le navire, ils continuent leurs analyses scientifiques, ils s'occupent des chiens de traîneau, etc. La vie se transforme en une routine presque agréable, dira le photographe. Sur la glace, comme des écoliers, on les voit qui improvisent des jeux, des matchs de football, des virées en traîneau, même tous les dimanches autour du photographe, un spectacle improvisé. Les chiens se sont bien adaptés à la neige, ils dorment dans des grottes de glace, il y a même la naissance de plusieurs chiots. La nuit, évidemment, tout le monde regagne le navire. Sauf que le 27 octobre 1915, Shackleton donne l'ordre d'évacuer ce navire. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette fois vraiment, la pression des glaces se fait trop forte. Imaginez une espèce d'énorme casse-noix qui appuie sur cette coque de noix par rapport à l'échelle évidemment d'un continent de glace. Vous imaginez, Shackleton dit « c'était une impression navrante que de sentir le pont littéralement éclater sous nos pieds. Les grandes traverses s'arquaient puis cassaient avec un bruit sec comme un coup de fusil. Dans l'endurance, j'avais concentré ambition, espoir, désir, et voilà que la carrière de notre pauvre bateau blessé et gémissant était finie, ses instants comptés, il fallait l'abandonner, broyé après 281 jours d'emprisonnement dans les glaces. Les explorateurs vont donc devoir construire un camp, hein, qui va s'appeler Camp Océan. Tout a été bien prévu, il ne manque ni de vêtements chauds, ni de nourriture, ils ont récupéré ce qui leur paraît essentiel sur le bateau, ce qui est vital. Ils vont bien sûr sacrifier tout le reste. L'endurance n'est bientôt plus qu'un amas de planchers, de cordages, Hurley écrit. Le navire grince, tressaille, les hublots volent en éclats un à un. Sur le pont, les planches se fissurent et se tordent. Ça faisait 326 jours que le navire était leur maison, vous imaginez. Nous avions appris à l'aimer, dit Shackleton. Il nous était très pénible d'assister à son supplice. Et voilà la glace qui appuie encore un peu plus et qui broie ce navire et qui le détruit. L'Endurance sombre le 21 novembre 1915 dans un bruit énorme. Il faut imaginer la glace qui se brise par pans entiers, les mâts qui s'effondrent, le navire coule, il disparaît complètement. Nous étions entourés aussi loin que la vue portait par une immense banquise en mouvement, épuisée par les efforts fournis pour tenter de sauver le navire, dira le médecin-chef. Je laisse encore la parole à Paul-Émile Victor. Avec la perte de l'Endurance, écrit-il, disparaissait aux yeux de Shackleton la dernière chance de réaliser la traversée de l'Antarctique, but de l'expédition pour lequel il avait dépensé toute son énergie, tout son temps, tout l'argent qu'il possédait. Pour lui, il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter ce naufrage. Le rêve de Shackleton est anéanti. Il a maintenant un objectif. Rentrer sur la terre ferme avec tout le monde sain et sauf. Vous avouerez que ça n'est pas n'importe quel objectif. Bonjour Marc Menon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Les grandes aventures, ça vous connaît, si je puis dire. Alors on va continuer avec vous l'histoire de ces hommes qui se raccrochent au moral d'acier de Shackleton, parce que maintenant il va falloir survivre, il va falloir rentrer. Tout ça est extraordinaire. C'est avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'expédition polaire de Shackleton, avec votre invité Marc Menon, journaliste et écrivain.
Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes donc aux côtés de Shackleton et de ses hommes. Nous sommes en Antarctique, dans la nuit du pôle sud. Enfin, on n'est pas encore au pôle sud, d'ailleurs, on en est même assez loin. Le navire, c'est complètement, qui s'appelait l'Endurance, ne portait pas si bien son nom que ça, puisqu'il a complètement, il s'est effondré, il s'est écrasé
oui,
sous la...
Il a tenu tellement longtemps qu'on peut dire qu'il c'est méritait vrai. Néanmoins son, ouais. son nom de baptême.
C'est vrai qu'il a été endurant. Et alors, il a fallu tout sortir, installer un campement. Et comment est-ce que ça se passe dans ce campement, Marc Menon?
Alors ce qui est extraordinaire, c'est ce leitmotiv qu'il anime et qu'il arrive à insuffler à ses hommes. Le pire tourne au meilleur pour le courage. Et ça, il leur répète. Et il a un autre élément pour essayer de dynamiser les esprits, c'est la poésie. Ça paraît invraisemblable parce qu'on se dit que des gens qui sont des aventuriers souvent se détournent de la culture. Eh bien, que nenni. Il faut insuffler avec le verbe cet esprit d'enthousiasme. Et chaque soir, comme ça, il emporte les hommes en leur racontant des histoires et en faisant retentir, je dirais, mugir des vers.
Faut imaginer hein, quand même le contexte. Alors bon, d'accord, c'est la Première Guerre mondiale en Europe. Là, eux sont complètement à l'autre bout de la planète, si je puis dire. Ils sont dans la nuit, leur bateau n'existe plus, ils savent pas du tout. Il y a combien de chances qu'ils s'en sortent finalement?
Il n'y a pratiquement aucune chance.
Enfin, aucune chance. Aucune chance. J'allais dire une sur dix, mais même
mais
pas.
Mais sauf qu'il y a cette stature inouïe de ce personnage qui a gagné leur confiance depuis des mois, qui a su imposer, alors qu'il est l'homme du contact, il est l'homme de la fraternité, il est l'homme qui, à chaque instant, sait regarder dans un homme s'il y a une détresse qui est en train de naître. Et à ce moment-là, il le console, il lui dit « Mais allons, il faut y croire, rien ne nous arrêtera. »
L'autre, en fait, c'est incroyable.
Là, voilà, c'est extraordinaire. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez Scott, avec lequel il avait tenté le pôle Sud 8 ans auparavant. Scott, c'était un militaire, c'était un gars de la Royale. Il n'était pas question d'avoir ce type de fraternité avec les matelots. Que nini, il faut de la discipline, il faut de la distance. Lui, c'est un officier de la marine marchande. J'ai eu cette formation.
Comme vous, j'ai
voilà, dit. Voilà, voilà, oui, oui. Mais c'est étonnant parce qu'on regarde les hommes d'une autre façon. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un esprit de connivence. Et ça, il a ce don inouï. Il sait donc, à chaque instant, non seulement entrer dans cette familiarité, tout en maintenant, grâce à sa stature, un sens de la discipline. C'est-à-dire qu'il insuffle l'autodiscipline chez les uns et les autres. Et pourtant, ce sont des durs, ce sont des gars qui ne se laissent pas manier comme
on
ça.
On imagine que sur les 5000 candidats, ils n'avaient pas choisi les plus tendres, hein, évidemment.
Oui, mais alors, là aussi, son sens du recrutement, et c'est un trait de son caractère, c'est l'intuition. Ça se situe quand il s'agit de repérer ceux qu'il va retenir, mais également quand il faut prendre des décisions, les plus invraisemblables, parfois, au-delà de ce que la raison nous dicte. On aura plusieurs exemples dans la grande aventure qui est en train de s'annoncer. Mais par exemple, quand il recrute McNish, le médecin que vous avez évoqué tout à l'heure, il porte des lunettes. Il lui dit « Vous avez un problème de vue ?» L'autre, il dit « Non, non, je vois très bien. » Alors il dit « Mais pourquoi portez-vous des lunettes ?» Eh bien, parce que certains visages sans lunettes ne sont pas beaux à voir. Alors il éclate de rire et il dit « bah, vous êtes recruté ». Et c'est de cette façon-là qu'il repère les gens.
Originaux,
voilà. Voilà. Et il ne leur demande pas de l'expérience, il se moque de cela. Ce qu'il veut découvrir, c'est la capacité de tout à chacun qu'il niche au fond de lui, ce ressort qui catapulte et qui fait que l'on n'est jamais abattu.
Alors, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes d'intendance à régler. D'abord, la nourriture, hein, qui est presque uniquement de la viande, des steaks de phoque, des steaks de manchot, des foies de manchot, qui sont d'ailleurs très bons, nous dit le lieutenant Greenstreet. C'est quand même extrêmement dur. D'ailleurs, un jour, Greenstreet renverse sa tasse de lait. Tout ça est très rationné, bien entendu. Et le pauvre, il est tellement désespéré. Il a dû y penser pendant des heures à cette tasse de lait qu'il allait boire et il la renverse comme un imbécile. Il en pleure et on voit ses camarades prendre un tout petit peu de lait dans la tasse de chacun pour remplir la sienne.
Alors voilà, c'est ce qu'il a réussi à créer entre les uns et les autres, l'esprit de solidarité. Vous venez d'évoquer la nourriture, mais quand on est dans l'extrême, que l'on n'a plus rien, que souvent l'esprit se met à rêvasser. Tout à l'heure, vous parliez de l'organisation. Lorsqu'ils sont sur le bateau, il n'est pas question de laisser filocher les esprits. Et pour ce faire, on oblige les uns et les autres, chaque jour, à des tâches. Et des tâches régulières, ce n'est pas de l'ordre pour de l'ordre, c'est de la motivation que l'on trouve ainsi dans l'exécution. Et alors que le bateau est là, éventré, qu'il va bientôt disparaître dans les glaces, qu'on organise ce campement, il veillera toujours à ce qu'il y ait de la nourriture. Et lui qui a failli mourir du scorbut dans les deux premières expéditions, il y a eu cette tentative avec Scott qui le punit parce qu'il y a cette rivalité entre les deux. Et alors qu'ils sont à quelques kilomètres d'abandonner, et que Scott veut néanmoins établir un record, il lui dit de rester sur place, vous êtes trop épuisé par le scorbut. Parce que lui-même a connu donc cette défaillance de la physiologie par le manque de vitamines et il sait que c'est grâce à la viande fraîche que l'on arrive à lutter contre cela. Donc il envoie constamment des hommes sur la banquise repérer les pauvres victimes potentielles que sont les manchots ou les phoques pour pouvoir nourrir les uns et les autres.
Alors évidemment, ils sont sur cette banquise, sur cet univers de glace. Alors ils ne sont plus sur un navire, mais ça ne les empêche pas de dériver sur 920
kilomètres. Hein. C'est ce qu'il a compris. C'est-à-dire que lorsque les hommes s'inquiètent,
on fait le point quand
même.
En réalité,
nous sommes en train de naviguer.
Mais oui.
C'est-à-dire que ne croyez pas que nous sommes condamnés à être prisonniers des glaces. En réalité, notre navire s'est étendu, c'est cette énorme plaque, et tout doucement, elle va nous faire glisser, nous rejoindrons les eaux vives, lorsque la glace, prise par la température, va commencer à s'effondrer, en quelque sorte. Et à ce moment-là, eh bien, nous sortirons les canots et nous tenterons l'impossible.
Parce qu'ils ont, bien entendu, sorti du navire avant qu'il ne sombre tout ce qui pouvait y avoir de plus important, de plus vital, et notamment 3 canots de sauvetage. Heureusement, ils ont
voilà,
ça.
Alors, il y en a un, c'est ce que l'on appelle une baleinière. C'est-à-dire, vous savez, c'est beaucoup plus grand. C'est une énorme barque qui permet aux baleiniers...
Le canot amiral.
Voilà. Et puis à côté, deux esquifs. Ils sont 28. N'oubliez pas, ils sont 28. C'est pas rien. 28 qui vont devoir se partager lorsque l'ordre sera donné, ces 3 éléments. Alors comment cela s'organise-t-il? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il comprend que la glace devient friable. Il y a même un accident incroyable. C'est-à-dire que lorsqu'il repère qu'il va bien falloir prendre la décision de quitter ce bateau de glace, il y a une fracture qui se fait en pleine nuit et cette fracture touche la tente de Tackleton. Il se retrouve tout seul, c'est-à-dire que les hommes sont d'un côté et lui qui part à la dérive.
Incroyable.
Alors là, une chance Wyde de son fidèle.
On ne peut pas sauter à l'eau pour aller rejoindre les autres, parce qu'elle est à je ne sais pas quelle température.
C'est terrifiant. Et puis c'est lui, il est l'emblème, sans lui il n'y a plus rien. Wyde, son fidèle lieutenant avec lequel il avait été déjà dans l'équipe de Scott et qu'il avait emmené avec lui dans la tentative du pôle sud 8 ans plus tard, va prendre l'initiative tout de suite d'aller le chercher et l'intervention est réussie. Maintenant donc, il dit, il n'est plus question de tarder, nous allons charger et la baleinière et les 2 autres bateaux de ce que nous pouvons. Et là, il va falloir bien évidemment prendre des décisions et éliminer. Et on va tuer entre autres les chiens. Parce que les chiens à bord, c'est de la place perdue.
Et puis surtout, ça fait de la viande, pour dire les choses comme elles sont.
Et puis, il y a un petit chat. C'est le chat mascotte du bord, qui est une sorte d'animal sur lequel les uns et les autres, en quelque sorte, focalisent une sorte d'humanité éthérée. Et c'est le chat du charpentier. Et on voudrait lui éviter le trépas, mais Tackleton dit non. Même
pas
lui.
Pas de raison.
Et là, il y a une haine qui va naître dans l'esprit du charpentier, il lui en voudra à tout jamais de lui avoir retiré ce qui était l'être plus cher. Et néanmoins, ce charpentier va jouer un rôle décisif dans les opérations qui vont suivre. Les voilà donc à bord de ces 3 bateaux. Le plus dur, c'est de ne pas se perdre. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des blizzards. Le blizzard, c'est ce vent terrifiant qui vient, qui emporte les éléments. Et comme on est avec des masses différentes, entre la baleinière qui a un certain poids et les autres qui varient, il faut éviter que les courants dispersent.
Ne les dissocient, bien
voilà.
sûr.
Et par conséquent, on crée des cordes pour que les uns et les autres restent figés.
Ils sont amarrés les uns aux autres.
Ça va durer des jours et des jours. Vers quel lieu vogue-t-il? Dans la tête de Tackleton, grâce au capitaine Worsley, on sait le point. Il est déterminant, Worsley, parce que s'il se trompe, eh bien là, effectivement, un jour, on va se retrouver dans les eaux vives, mais complètement perdu. Il y a une sorte d'espoir, c'est d'accrocher l'île éléphant. Cette île éléphant, elle est à 1000 km de là. Il va falloir la gagner.
Est-ce qu'ils y arriveront, comme dans les épisodes de Tintin? Vous le saurez aussitôt après cela.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de l'expédition polaire de Shackleton cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain.
C'est le 9 avril 1916 que les 3 petits canots sauvés du naufrage de l'Endurance ont été mis à l'eau, avec un cap vers la terre ferme, mais vous avez bien compris, et Marc Menant nous l'a fait littéralement vivre, à quel point tout ça est incertain. Le matelot Becknell écrit « Notre première journée sur l'eau fut l'une des plus froides, une des plus dangereuses de l'expédition. Les glaces étaient déchaînées et il nous fallait trimer dur pour garder nos canots dans les sillons dégagés. De nombreuses fois, il s'en est fallu de peu que nous soyons écrasés par les masses de glace qui s'entrechoquaient. » Mais puisque non seulement ils s'en vont dans la nuit ou en tout cas dans l'aube sans savoir exactement vers où, mais en plus il y a ce danger permanent d'être littéralement broyé par ces masses masse de glace qui flotte et qui vous arrive littéralement dessus. La pluie se transforme en neige, elle gèle sur eux, vous imaginez tout ça. Il est impossible de se réchauffer. Ils ont tous les lèvres fendues, les yeux rouges, le visage profondément incrusté de sel. Ils ne dorment plus et ils essaient de voguer vers la fameuse île éléphant. On est le 18 avril 1916. Est-ce qu'ils vont y arriver, Marc Menant ?
Ils vont y arriver presque miraculeusement, mais grâce à ce capitaine Worsley, qui arrive malgré ces conditions dantesques que vous venez de nous rappeler. N'oublions pas que les moyens de navigation de l'époque sont extrêmement, rustiques, et que par conséquent, faire le point dans ces conditions, ça tient véritablement de l'inspiration, de l'intuition. Eh bien, il ne se trompe pas. Et à un moment donné, dans cette grisaille infâme, alors que les corps commencent à se dédater, il y en a un qui crie, et celui qui prend ainsi le mugissement qui va réenflammer les enthousiasmes, c'est bien sûr Shackleton. Terre, 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 oui, elle est là, l'île éléphant. Mais il faut maintenant la gagner. Or, nous sommes dans les 50e rugissant. C'est-à-dire que c'est une mer avec des montagnes qui sont là, qui vous envoient d'un point à l'autre. Ce n'est plus du ballottement, c'est simplement l'aléa qui, théoriquement, avec...
Et puis toujours les glaces, les glaces.
Toujours, mais toujours, toujours, toujours. Et pour autant, eh bien là encore, Worsley, qui a le sens de la navigation, arrive à faire en sorte qu'ils prennent la bonne vague et ils vont atteindre le rivage de l'île éléphant.
On est là donc le 18 avril 1916.
Et ils sont 28. 28 sur la banquise. Il faut improviser des abris. Alors là, on prend la baleinière et on va en faire une sorte d'hôtel.
Comme un toit, oui.
Voilà. Alors on calfeutre tout ça un peu comme à la vache que je te pousse avec ma niche, le charpentier qui est extrêmement ingénieux. On essaie également de faire en sorte de rationner de façon très subtile sans que pour autant la faim tenaille trop les estomacs. Et pourtant, elle est là, cette faim obsessionnelle. Et pour faire en sorte que, là encore, on arrive à croire à l'impossible, il y a toujours les mots, la poésie, le soir, au moment de s'endormir. C'est fou de se dire qu'il y a comme ça cette partie culturelle qui aide un homme à galvaniser des sinistrés. Et pour autant, là encore, il sait qu'il va falloir quitter le lieu, mais pas tous, c'est impossible. Alors il va choisir 6 personnages. Et ensemble, sur le canot le plus petit, ils vont essayer de gagner la Géorgie du Sud. Car sur la Géorgie du Sud, il y a un port baleinier, celui que vous avez évoqué au début de l'émission. Comment arriver à ce point invraisemblable, qui est encore à des centaines de kilomètres ? Alors déjà, il va choisir astucieusement ceux qui vont l'accompagner. Et il y a bien sûr Kane, qui était avec lui un Irlandais, dès la première expédition. Il dit à son ami Wilde, avec lequel il a tout partagé, « Tu resteras avec l'ensemble de l'équipage, car ils ont confiance en toi. » Il a façonné, en quelque sorte, l'esprit de Wilde. Il faut savoir que quand ils se sont rencontrés sur la Discovery, le bateau de Scott, il n'était que simple matelot, Wilde. Mais il avait décidé de devenir officier. Et le sens de la fraternité de Shackleton faisait que le soir, il lui donnait des leçons particulières pour qu'un jour cet homme-là puisse être comme lui, un homme galonné. Vous imaginez ce sens de l'humain qui habite Shackleton.
Le fait de le laisser évidemment avec les autres prouvait bien qu'il n'avait pas l'intention de les abandonner.
Ah, surtout pas.
C'était un peu la preuve qu'il allait revenir.
C'est une obsession chez lui.
Ça, bien sûr.
Il se moque à la limite que lui périsse, c'est pas grave. Il s'est juré de faire que ces hommes-là puissent un jour raconter leur histoire. Rien ne l'arrêtera. Et il croit une sorte... C'est vrai qu'il compagnonne avec les instances supérieures, c'est-à-dire qu'il est croyant, c'est un Irlandais, il allait à l'église, et puis en ce début du XXe siècle, on est toujours quand même dans cette dépendance du sacré. Il y a les prières, et lui, il a l'impression que la Providence, même si elle l'écarte de l'exploit, vient toujours en quelque sorte l'accompagner au moment le plus propice et le sortir du drame le plus absolu. Et donc, ils vont partir. Il va retenir dans les hommes, eh bien, il y a Worsley, qui lui est indispensable pour la navigation, le capitaine. Il va retenir Quinn, il va retenir McNish, le charpentier, et deux têtes de mule. Deux gaillards qui ont déjà failli entraîner des mutineries. Mais heureusement, il s'éveillait, et là, il se dit que s'il les laissait dans ces conditions d'attente, il pourrait être des éléments de sédition, des éléments de dévastation mentale, et il les prend à ses côtés, Vincent et McCarthy. Les voilà sur le bateau, si on peut appeler ça bateau.
Le frêle esquif.
Frêle esquif, toujours cette tourmente inimaginable. Et là, il faut se partager les rôles. Il y en a un qui est à la barre, donc il scinde l'équipe en deux. C'est-à-dire que pendant qu'on dort comme on peut, disons qu'on récupère un peu les forces, il y en a un dans l'équipe de trois qui est en veille, il y en a un qui est à la barre, l'autre qui essaie, parce que n'oublions pas qu'on a improvisé des voiles avec les tentes qui étaient encore disponibles, et l'autre qui écope, parce que constamment, il y a l'eau. Et puis parfois, l'eau est tellement envahissante qu'il faut tous être là et dégager au maximum afin de ne pas sombrer. La dérive va durer 16 jours.
16 jours.
16 jours. Arrivera-t-on à cette Géorgie du Sud ? Il n'en doute pas. Aucun ne doute. Même ceux qui le haïssent comme Vincent et McNish. Parce que ce bonhomme-là, même lorsque on a l'impression que les éléments ne peuvent que vous engloutir, lui, il tonne. Non seulement qu'ils y arriveront, et à un moment donné, il dit à Worsley, imaginez, ils sont là, dans cette situation non plus précaire, mais où en réalité, c'est plutôt la fatalité qui les attend. Il lui dit, est-ce que vous repartiriez un jour avec moi pour tenter à nouveau une grande aventure et le pôle ?
On reste quand même dans l'humour british.
Ouais. Et enfin, il y a au fond, là-bas, dans le blizzard, dans ce décor qui cherche à les dévorer, il y a l'espoir du nombre et c'est bien la Géorgie. Là encore, il faut trouver la bonne vague, il faut trouver le bon endroit pour y aller. Ils sont, depuis deux jours, ravagés par la soif. Ils n'ont plus rien. Et donc, les hommes sont gagnés par une sorte de délire. Ils voudraient lui aller jusqu'au port baleinier, mais c'est trop loin. Ils ne tiendront pas. La soif va les basculer dans le trépas. Alors, il faut oser. Oser trouver la petite anse qui sera un abri et après franchir l'impossible, à savoir des montagnes qui culminent à 3000 mètres. Pour autant, là encore, grâce à Worsley, on trouve la bonne vague et on va aller s'échouer, accueilli par des cailloux. Quelle chance! Et une grotte qui est là, qui les attend pratiquement avec des stalactites comme porte. Et on va chercher à regagner des forces avant de franchir les 3000 mètres. Oser cette opération insensée. Ils sont pratiquement en haillons. Déjà, ils étaient très mal équipés. Mais là, imaginez tout ce qu'ils endurent depuis plus d'un an et demi. Les conditions font que de toute façon, ce n'est pas tous ensemble qu'ils vont pouvoir tenter cette opération. Non, ils ne seront que trois à oser cette opération d'alpinisme, alors que lui, il a des entailles dans les pieds. Il n'a plus la moindre capacité, je dirais, à repriser les vêtements. Et pour autant, eh bien, ils vont s'élancer. Il n'y a pas le choix. Il y a l'obsession de sauver ceux-là et surtout de retourner après.
Chercher les autres.
Chercher les autres. Il faut donc monter à 3000 mètres. Le temps soudain redevient capricieux. Non pas qu'il y ait eu des accalmies, mais on avait l'impression qu'il y avait un côté bonhomme, une connivence des éléments pour adoucir leur souffrance. Et lorsqu'ils attaquent la montagne, le brouillard qui revient. Et là, tout doucement, il monte, il trébuche, il s'effondre, tombe dans les crevasses, glisse, hurle, se reprenne. On va y arriver, on va y arriver et on y croit. Il est vrai que Cain, l'Irlandais, est de la trempe de Shackleton et puis depuis si longtemps il le connaît. Il ne doute pas une seule seconde. Et Worsley aussi, qui est entré en fraternité, qui admire Shackleton. Il l'a vu alors qu'il était à la fois victime d'ophtalmie, victime du scorbut, touché par les dysenteries, marchait dignement, ne se plaignant jamais et disant aux hommes « restons soudés ». Donc un tel personnage, bien évidemment, ne peut vous conduire qu'à la réussite, si on peut appeler ça la réussite dans la détresse. Et les voilà à 3000 mètres, exténués, dans le brouillard. Ils tombent une dernière fois. Verrou, tendre. Ils ne connaissent rien de la topographie des lieux. Ils savent simplement, grâce à leur Worsley, qu'ils sont à 3000 mètres, que de l'autre côté, il y a le port baleinier qui les attend. Mais où aller ? Et là, l'intuition. La fameuse intuition de Shackleton. Ils sont face à ces pentes qu'ils ne voient pas, puisque, je vous dis, le brouillard est la tenace. Il dit, nous allons tenter la grande descente. C'est-à-dire, eh bien, faire un toboggan. Ils prennent les cordes qui leur permettaient de se tenir, en font un vague-siège, ils s'accrochent les uns aux autres et osent se lancer dans la pente, sans savoir s'ils vont s'effondrer dans un abîme, sans savoir si une roche va les fracasser. C'est la tentative, le quitte ou double.
Totalement désespéré et dans le brouillard.
Dans le brouillard, le pire tourne au meilleur pour le courageux. Le leitmotiv est là qui les anime. Et là, je dirais que c'est une sorte d'ordalie. Est-ce que le pire tourne au meilleur pour le courageux ? Eh bien oui, de façon invraisemblable, ils sont emportés et ça glisse et ça glisse et ça glisse et ça glisse. Et quand ils arrivent, eh bien ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a les éléments de la civilisation. Très vite, ils vont se retrouver avec des jeunes garçons qui sont des enfants de baleiniers et ils vont pouvoir gagner le port.
Et envoyer des secours. Ensuite, c'est le gouvernement chilien qui prendra le relais pour aller sauver les
expéditions. Parce qu'on est en pleine guerre, les moyens ne sont pas disponibles. Mais néanmoins, il va mobiliser tout le monde et il va sauver et rechercher les hommes qui l'attendaient sur l'île de l'éléphant.
Nous sommes riches de nos souvenirs. Nous avons souffert, nous avons eu faim, nous avons triomphé. Nous avons vu Dieu et ses splendeurs, entendu ce que la nature a à nous dire. Nous avons touché l'âme de l'homme, dit celui qui avait pour devise, je me permets de vous la rappeler, « Jamais je ne consentirai à baisser pavillon ». Merci beaucoup Marc Menon.
Avec plaisir.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laila. Nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et elle aimerait connaître l'origine de l'expression « à brûle pour point ».
Oui, poser une question à brûle-pourpoint, c'est s'exprimer de façon très abrupte, vous savez, sans aucun ménagement pour la personne qu'on a en face de soi. Alors, d'où ça vient cette expression ? Ben, évidemment, ça vient du pourpoint. Il faut remonter au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'à l'époque, en Europe, les hommes portaient ce qu'on appelait un pourpoint. C'était un vêtement qui était souvent matelassé, d'ailleurs, et qui couvrait le corps à peu près du cou jusqu'au dessous de la ceinture. L'usage du pourpoint sera généralisé au XIIIe siècle, mais ça va perdurer jusqu'au XVIIe siècle et même au début du XVIIIe. Le vêtement avait été inspiré par celui que les chevaliers portaient autrefois sous leur armure. Alors, d'où vient l'expression « à brûle pour point » ben, pour le comprendre, là, il faut revenir à l'histoire des armes à feu. Vous savez, autrefois, il n'existait pas encore de cartouches ou de balles à proprement parler. Il fallait bourrer le canon de poudre, ce qui pouvait évidemment parfois provoquer des explosions. Et d'une façon plus générale, quand on appuyait sur la gâchette, si le canon était très proche du vêtement, eh bien, on ne pouvait que le brûler. Et même, on pouvait se brûler soi-même. Ce qui fait qu'on n'utilisait jamais d'armes à feu autrefois sans une bonne paire de gants, bien entendu. Donc, à brûle pour point, c'est tirer tellement proche de l'adversaire qu'on peut aller jusqu'à brûler son pourpoint. Voilà d'où vient l'expression. C'est-à-dire d'une façon extrêmement audacieuse, sans aucune limite, sans aucune réserve. Alors, l'expression, elle va se répandre, bien entendu. Si j'en crois le dictionnaire Furtière, édition de 1701, c'est le moment où la locution entre vraiment dans le langage, expression donc pour désigner une manière de faire quelque chose d'un peu brutal, d'un peu précipité.